New York. Le numéro 6 de Bilberry Street, là où Claire avait passé toute son enfance et où sa mère était morte, était occupé par une maison couleur prune, avec une porte blanche à double battant surmontée d'un fronton brisé. Tandis que je scrutais la bâtisse depuis plusieurs minutes, une femme apparut sous la galerie. Chevelure rousse, visage très pâle, constellé de taches de rousseur. Enceinte jusqu'aux yeux. « Vous êtes le type de l'agence immobilière ?» me demanda-t-elle avec un regard mauvais. « Non, madame, pas du tout. Je m'appelle Raphaël Barthélémy. »« Ethel Faraday, » dit-elle en me tendant la main à l'européenne. « Vous avez un accent français, » remarqua-t-elle. « Vous venez de Paris ?»« Oui, j'ai pris l'avion ce matin. »« Moi, je suis anglaise, mais mes parents habitent en France depuis quelques années. » « Vraiment ?»« Oui, dans le Luberon, dans le village de Roussillon. » Nous échangeâmes quelques banalités sur la France et sur sa grossesse. C'était insupportable d'être enceinte par cette chaleur. Ce n'était pas forcément une bonne idée de faire un troisième enfant à 44 ans. « D'ailleurs, je n'arrive pas à tenir debout. Ça ne vous gêne pas si je m'assois ? Je viens de faire du thé glacé, vous en voulez ?» Visiblement, Ethel Faraday s'ennuyait et était prête à accepter n'importe quelle compagnie. C'est donc installé devant un verre sous la galerie que je lui avouais, du moins en partie, le but de ma visite. Je suis écrivain et je mène une enquête sur une jeune fille qui a passé son enfance dans votre maison. Vraiment ? S'étonna-t-elle. À quelle époque ? Dans les années 1990 et le début des années 2000. Elle fronça les sourcils. Vous êtes certain que c'était ici ? Oui, je pense. Cette maison appartenait à Joyce Carlyle, n'est-ce pas ? Ethel approuva de la tête. Mon mari et moi l'avons rachetée à ses sœurs. Ses sœurs ? Ethel fit un signe de la main en direction de l'est. Angela et Gladys Carlyle, elles vivent plus bas dans la rue au numéro 299. Je les connais peu pour ne pas dire pas du tout. Personnellement, je n'ai rien contre elles, mais ce ne sont pas les femmes les plus sympathiques du quartier. Quand leur avez-vous racheté la maison ? Elle se mordit la lèvre inférieure tandis qu'elle réfléchissait. En 2007, à notre retour de San Francisco, j'étais enceinte de mon premier, justement. À cette date, vous saviez que quelqu'un était mort d'une overdose dans cette maison ? Ethel haussa les épaules. Je l'ai appris par la suite, mais ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je ne crois pas à ces foutaises autour des malédictions ou des maisons hantées. Il faut bien mourir quelque part, non ? Elle prit une gorgée de thé, puis désigna les habitations qui l'entouraient. Et puis entre nous, c'est Harlem ici. Vous voyez toutes ces jolies maisons convoitées par les gentilles petites familles bien proprettes et branchées ? Dans les années 1980, avant d'être rénovées, elles étaient à l'abandon, squattées par les dealers ou transformées en crack house. Je vous mets au défi d'en trouver une seule dans laquelle il n'y ait pas eu une mort violente. Vous saviez que Joyce Carlyle avait une fille ? Non, je l'ignorais. J'ai peine à le croire. Elle s'étonna. Pourquoi vous mentirais-je ? Sérieusement, vous n'avez jamais entendu parler de cette adolescente du quartier qui, en 2005, a été enlevée dans l'ouest de la France ? Elle secoua la tête. En 2005, nous vivions en Californie, dans la Silicon Valley. En quête de fraîcheur, elle posa son verre sur son front avant de continuer. Je voudrais être sûre de bien comprendre. Vous me dites que la fille de l'ancienne propriétaire a été enlevée, c'est ça ?
Oui,
par un monstre absolu, du nom de Heinz Kiefer. Elle s'appelait comment ?
Claire.
Claire Carlyle.
Alors que je n'attendais plus rien d'elle, le visage déjà pâle d'Ethel Faraday se figea et prit une couleur de craie.
Elle commença une phrase, puis s'arrêta net. Pendant quelques secondes, son regard se troubla, avant de se perdre dans le vague, remontant vers des souvenirs lointains. « En y repensant, il s'est bien passé quelque chose, » reprit-elle au bout d'un moment. « Un coup de fil étrange, le jour de notre pendaison de crémaillère. C'était le 25 octobre 2007. On avait choisi cette date pour inviter nos amis, parce que c'était aussi l'anniversaire de mon mari, qui fêtait ses 30 ans. » Pour rassembler ses souvenirs, elle marqua une nouvelle pause, qui me parut interminable. Je la relançai pour l'inciter à continuer.
« Donc, ce jour-là, vous avez reçu un coup de fil.
Il devait être aux environs de 20 heures. La fête battait son plein. Il y avait de la musique et des éclats de voix. J'étais occupé dans la cuisine en train de planter les bougies sur le gâteau, lorsque le téléphone mural a sonné. J'ai décroché et, avant même que j'ai pu prononcer la moindre phrase, j'ai entendu une voix qui hurlait. « Maman, c'est moi, c'est Claire. Je me suis échappé, maman, je me suis échappé. »
À présent, c'était moi qui me figeais, électrocuté par un frisson. il y avait 6 heures de décalage horaire entre la France et la côte est des États-Unis. Si Ethel avait reçu un tel coup de fil vers 20 heures, ça voulait dire que Claire l'avait passé vers 2 heures du matin, soit plusieurs heures avant l'incendie. Comme nous l'avions deviné avec Mark, Claire avait bien réussi à se libérer des griffes de Kiefer. Mais contrairement à ce que nous croyons, sa libération ne remontait pas à la matinée, mais à la veille, ce qui changeait tout. À présent, Ethel était lancé. J'ai demandé qui était à l'appareil, et là, en entendant ma voix, je pense qu'elle a compris qu'il ne s'agissait pas de sa mère. Quelque chose me chiffonnait. Mais comment Claire a-t-elle pu tomber sur vous après tout ce temps? En déménageant, vous n'aviez pas gardé le numéro de l'ancienne propriétaire? Si, justement. La ligne n'avait jamais été fermée, seulement suspendue. Et lorsqu'on a contacté AT&T, ils nous ont proposé cette solution. C'était courant à l'époque. Surtout, c'était moins cher que d'ouvrir une nouvelle ligne. Et comme on tirait un peu le diable par la queue... Et après cet appel, vous n'avez pas prévenu la police? Ethel ouvrit des yeux ronds, agacés. Qu'est-ce que vous me chantez? Pour quelle raison l'aurais-je fait? Je ne connaissais rien à cette histoire et je n'ai pas compris qui était cette fille. Et que lui avez-vous répondu? Je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que Joyce Carlyle était morte. 4. Haute stature, voix rocailleuse et visage adipeux. Franck Muselier vint à la rencontre de Mark et lui serra la main.
Merci de me recevoir. Mark Karadec, je suis...
Je sais qui vous êtes, capitaine,
coupa le gendarme en lui indiquant un siège.
Un crack de la BRB. Le gang des Salvadoriens, la bande de la banlieue sud, les fourgons blindés de la Dream Team, votre notoriété vous précède.
Si vous le dites.
En tout cas, vous nous avez bien fait rêver. Ce n'est pas dans nos patelins qu'on a des affaires aussi bandantes.
Muselier tira un mouchoir en tissu de sa poche et s'épongea le front.
Et en plus, on n'a même pas la clim.
Il demanda à Solveig de leur apporter 2 verres d'eau et fixa son interlocuteur un sourire placide sur le visage.
Bon, qu'est-ce qui me vaut la visite de la BRB?
Devant un gendarme, Karadec préféra éviter les bobards.
Je vous préviens tout de suite pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je suis à la retraite et je travaille pour mon compte.
Muselier haussa les épaules.
Si je peux vous donner un coup de main, ça ne me pose pas de problème. Voilà, je m'intéresse à l'affaire Carlyle.
Ça ne me dit rien, affirma-t-il en tirant sa chemise pour masquer sa bedaine.
Mark fronça les sourcils. Sa voix se fit plus ferme.
Claire Carlyle, répéta-t-il. L'une des victimes de Heinz Kiefer, la petite dont on n'a jamais retrouvé le corps.
Le visage de Muselier s'éclaira, légèrement contrarié.
D'accord, je comprends mieux. C'est à cause du jeune Boisseau, c'est ça? C'est lui qui vous a engagé?
Pas du tout.
Qui est ce Boisseau? Laissez tomber, éluda le gendarme, alors que Solveig refermait la porte du bureau après avoir déposé 2 petites bouteilles.
Muselier ouvrit la sienne et but directement au goulot.
Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement sur Kiefer? Demanda-t-il, s'essuyant les lèvres du dos de la main. Vous êtes au courant que ce n'est pas moi qui ai mené l'enquête, n'est-ce pas? Mais c'est bien vous qui êtes arrivé le premier sur les lieux de l'incendie. Je voudrais savoir par quelles circonstances.
Le gendarme eut un rire nerveux.
J'aimerais vous dire que c'est grâce à mon flair, mais en réalité, tout n'est dû qu'au hasard. Si vous m'aviez prévenu du motif de vos recherches, je vous aurais retrouvé la déposition que j'avais faite à l'époque. Je pourrais vous la faxer si vous le souhaitez.
Je veux bien. En attendant, vous pouvez toujours m'en rappeler l'essentiel.
Muselier se gratta derrière l'oreille et, dans un effort presque surhumain, se leva de son siège pour faire face à la carte murale accrochée derrière son bureau.
Bon, vous connaissez un peu le coin?
Sans attendre de réponse, il enchaîna.
Ici, à Falsbourg, on est à la frontière entre la Lorraine et l'Alsace, d'accord?
Il attrapa une règle qui traînait sur son bureau et pointa une zone sur la carte. Une représentation en relief de la région, comme on en trouvait autrefois dans les écoles.
J'habite côté Alsace, mais à l'époque de l'affaire, je travaillais à la gendarmerie de Sarrebourg, en Moselle. Plus de 30 bornes à se coltiner chaque matin.
Pas pire que les transports en commun parisiens,
nota Marc. Muselier ignora la remarque.
Ce jour-là, en me rendant à mon boulot, j'ai aperçu une colonne de fumée noire qui provenait de la forêt. Ça m'a intrigué et j'ai prévenu les secours, c'est tout.
Il était quelle heure?
Aux alentours de 8h30.
Mark se rapprocha de la carte.
Où se trouvait la maison de Kiefer ?
Par là, affirma le gendarme en désignant une zone au milieu de la forêt.
Donc, comme tous les matins, vous vous rendiez à la gendarmerie.
Karadec sortit un stylo de sa poche, joignant le geste à la parole, mais sans décapuchonner le bic, il suivit sur la carte l'itinéraire emprunté par le gendarme.
Et là, sur le coup de 8h30, vous avez aperçu de la fumée qui venait d'ici.
Oui, capitaine.
Mark resta courtois.
J'ai déjà emprunté le col de Saverne. Honnêtement, je ne vois pas très bien comment on pourrait avoir la moindre visibilité sur cette partie-là de la forêt.
Touché, répondit le gendarme. Comme je l'ai mentionné dans ma déposition, je ne circulais pas sur la route principale.
À nouveau, il pointa sa règle.
J'étais sur une traverse de la D-133, à ce niveau.
Et avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, qu'est-ce que vous foutiez sur une route forestière aussi éloignée à cette heure si matinale ?
Muselier ne se départit pas de son sourire.
Est-ce que vous aimez la chasse, capitaine ? Parce que moi, c'est mon grand plaisir, ma grande passion. Qu'est-ce qu'on chasse par ici ?
Chevreuils, sangliers, cerfs, lapins de garenne. Si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur des perdrix et des faisans. Bref, à cette date, c'était un vendredi matin d'octobre, la chasse était déjà ouverte depuis quelques semaines, mais tous les week-ends précédents avaient été pourris.
Il retourna s'asseoir et poursuivit.
Que de la flotte, sans discontinuer. Cette fois, enfin, la météo prévoyait 2 jours de grand beau temps. J'appartiens au cercle des chasseurs de Moselle, et avec les copains, on avait prévu de profiter pleinement du week-end. J'étais donc sur cette route pour faire des repérages en prévision du lendemain, vérifier l'état des sentiers et des clôtures, etc. J'aime observer le soleil qui se lève sur la forêt après la pluie. J'aime humer les odeurs de sous-bois.
Tu es gendarme, mec, pas garde-chasse,
pensa Mark. Mais il s'abstint de toute remarque. Huileux et tout en fausse rondeur, ce type n'était pas net. Mais Mark ne trouvait pas l'angle pour lui rentrer dedans. Il soupira discrètement et recentra la discussion.
Donc, vous avez aperçu de la fumée depuis la route.
Voilà. Et comme j'avais ma bagnole de service, une chouette Mégane, soit dit en passant, j'ai pu prévenir par radio à la fois les collègues et les pompiers.
Puis vous vous êtes rendu sur les lieux.
Oui, pour sécuriser l'arrivée des secours et être certain qu'aucun promeneur ou chasseur ne se trouvait dans les environs. Logique, non ?
Ouais, vous avez fait votre boulot.
C'est gentil à vous de le reconnaître.
Muselier sourit et nettoya ses Ray-Ban Aviator avec un pan de sa chemise. Karadec refusait de lâcher prise.
Si vous me permettez encore une ou deux questions.
Très vite alors, répondit l'autre en consultant sa montre. Je dois rejoindre mes hommes au rond-point de la 4. Les agriculteurs ont installé un barrage filtrant depuis ce matin et...
Karadec le coupa.
J'ai relu les articles de journaux de l'époque. On a relativement peu parlé du véhicule de Kiefer, celui dans lequel on a retrouvé les traces génétiques de Claire Carlyle.
Il n'y avait pas que les empreintes de cette fille, nota le militaire. Il y avait des traces de toutes les autres victimes. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est dans cette bagnole que ce malade transportait ses proies. Lorsque les TIC sont venus faire leur relevé, j'ai pu observer ce putain de corbillard sous toutes les coutures. Kiefer y avait aménagé une sorte de cage, de coffre, comme un grand cercueil insonorisé.
Karadec fouilla dans sa poche pour en sortir un article de journal qu'il avait récupéré dans l'appartement de Raphaël.
« C'est la seule photo que j'ai pu retrouver »,
dit-il en l'attendant au gendarme. Muselier observa le cliché en noir et blanc, au grain épais.
« C'est bien elle. Un pick-up Nissan Navara. »«
Et ça, c'est quoi derrière ?»«
C'est la moto de Kiefer, une 125 type motocross. Elle était sanglée dans la benne du véhicule. »
Qu'est-ce qu'elle foutait là ?
Comment voulez-vous que je le sache ?
En tant que gendarme, vous devez bien avoir une explication.
Muselier secoua la tête.
Je ne me suis jamais posé la question. Comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas été chargé de l'enquête. Dites, entre collègues, on pourrait se tutoyer, non ?
Bien sûr,
enchaîna Mark.
Kiefer, tu le connaissais avant que l'affaire éclate ?
Jamais rencontré, jamais entendu parler.
Pourtant, tu chassais près de chez lui, non ?
La forêt est immense, répondit Muselier en se levant et en attrapant sa veste. Bon, il faut vraiment que j'y aille, là.
Une dernière question, si tu permets,
demanda Karadec en restant assis.
10 ans après les faits,
Comment peux-tu te souvenir de la marque de sa voiture? La photo est complètement floue.
Le gendarme ne se démonta pas.
Justement, à cause de l'affaire Boisseau. Je pensais que c'était pour ça que t'étais venu m'interroger.
Raconte-moi.
Après une hésitation, le gendarme se rassit. Quelque chose dans cette conversation l'amusait. Dans ce jeu du chat et de la souris, il avait l'impression d'être imbattable.
La famille Boisseau-Després, tu connais?
Marc secoua la tête.
Bah, t'es pas le seul. Peu de gens les connaissent, même dans la région. Pourtant, on trouve leur nom dans la liste des 150 plus gros patrimoines de France. Des gens très discrets, issus d'une vieille famille d'industriels nancéiens, qui sont aujourd'hui à la tête d'un petit empire dans la distribution de matériel de BTP. Quel rapport avec mon affaire?
Muselier tirait plaisir de l'impatience de son interlocuteur.
Figure-toi qu'il y a 6 mois, je vois débarquer ici l'un des rejetons de la famille, Maxime Boisseau. Un petit gars de 20 ans, fébrile, agité, mal dans sa peau. Il s'est assis sur le même siège que toi, me tenant un discours désordonné, m'expliquant qu'il suivait actuellement une psychanalyse et que c'était sa thérapeute qui lui avait conseillé de venir me voir pour qu'il soit enfin reconnu en tant que victime et...
Karadec s'impatienta.
« Tu me sors la version courte, s'il te plaît.
Faudrait savoir ce que tu veux à la fin. » Bref, j'ai écouté son histoire attentivement et voilà le topo. Le 24 octobre 2007, le gamin, alors âgé de 10 ans, prétend avoir été enlevé par un type en plein centre de Nancy.
Le 24 octobre, 2 jours avant l'incendie.
Tout juste, une opération éclair, à peine plus de 24 heures entre l'enlèvement et la remise de la rançon. Le gosse nous a dit qu'à l'époque, il avait eu la présence d'esprit de retenir le numéro de la plaque d'immatriculation de son ravisseur. 9 ans après, il nous la donne. On la rentre dans la bécane, et devine quoi?
C'était la plaque du pick-up de Kiefer,
avait compris Marc.
Bingo! Avoue que c'est dingue, non? Au début, on pensait que le jeune fabulait, mais tu l'as dit toi-même, l'IMAT n'avait pas fuité dans la presse.
Boisseau, qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre?
D'après lui, son père a payé la rançon sans moufter, et sans prévenir les flics. L'échange s'est fait dans une forêt du coin. 500 000 euros remis à Kiefer dans un sac en toile jaune.
En entendant la référence au sac, Marc ressentit une décharge d'adrénaline, mais il demeura impassible. Il n'avait pas l'intention de faire le moindre cadeau au gendarme.
Il t'a donné des détails sur sa détention? Il a subi des sévices?
Non. Et il assure que Kiefer ne l'a pas touché. Après, il s'embrouille un peu les pinceaux. Parfois, il affirme que Kiefer avait une complice, parfois c'est moins clair.
Une complice? Pourquoi il n'est pas venu te trouver, toi?
Pour la même raison que toi. Il a fait des recherches sur Internet et il est tombé sur mon nom, qui revenait dans plusieurs articles.
Et pourquoi les parents n'ont jamais porté plainte?
Pour que l'affaire s'ébruite pas. C'est justement ce que leur fils leur reproche. Les Boisseau-Després considéraient avoir réglé eux-mêmes le problème. Et ils n'étaient pas à 500 000 près. Le silence est d'or. Dans ce cas, l'expression prend tout son sens.
Solveig frappa à la porte et la poussa, sans attendre qu'on lui dise d'entrer. « Meyer cherche à vous joindre, mon colonel. Un tracteur est en train de démonter la sculpture du rond-point de la 4. »«
Merde! Quel con, c'est bouseux !»
explosa le gendarme en se levant. Karadec l'imita.
« Tu peux me donner la déposition de Maxime Boisseau ?»«
J'en ai pas pris. Sur le plan pénal, son histoire n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Après plusieurs co-saisies, tu sais comme moi qu'il y a eu extinction judiciaire. Qui veux-tu qu'on poursuive aujourd'hui ?»
Karadec soupira.
« Tu sais où il crèche, au moins ?»«
Pas vraiment. » Il est en conflit avec sa famille. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une grande librairie de Nancy, le Hall du Livre.
Je connais.
Pendant que Muselier enfilait sa veste, Solveig confia à Marc. Je travaille pour le magazine de la Gendarmerie nationale. En ce moment, j'écris un article sur les grandes figures de la maison. Peut-être que je pourrais vous interviewer?
Je n'en ai pas franchement le temps.
Juste une question alors. Quelle est la qualité principale pour devenir un grand flic?
Sans aucun doute, développer son propre détecteur de mensonges. C'est ça qui m'a été le plus utile dans mes enquêtes. Je sais lorsque les gens me mentent.
Et moi, je t'ai menti?
Demanda Muselier.
Oui, vous m'avez menti une fois,
affirma Karadec en revenant au vouvoiement. La tension monta d'un cran.
Ah bon? Tu manques pas de culot, toi? Explique-moi quand je t'ai pas dit la vérité.
Ça, c'est justement ce qui me reste à trouver.
C'est ça. Reviens me voir à ce moment-là.
Je n'y manquerai pas.